C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Yeah, here come the rooster.
En ce vendredi soir, place Antoine. Je sais pas si les Saguenayens font jouer cette chanson-là quand ils gagnent un match en séries éliminatoires. Salut Antoine!
Hey, salut Mario! Non, définitivement, ils font pas jouer cette chanson-là, ils font jouer une autre chanson, mais tu me parles des Saguenayens. Je suis tellement content de leur première ronde de séries éliminatoires. J'en ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui à la télévision, mais je suis content de voir que cette jeune équipe-là, une des plus jeunes équipes de la Ligue junior majeure du Québec, s'épanouit et ait connu autant de succès en première ronde. Ils ont gagné leurs quatre premiers matchs, ils ont balayé la série et de voir une jeune équipe montrer autant de prestance, pour moi, je trouve ça vraiment impressionnant, vraiment excitant pour les partisans des Saguenayens qui sont restés un petit peu sur leur faim dû à la pandémie, où c'était leur année et la saison est annulée.
Absolument, on leur souhaite vraiment la meilleure des chances, puis c'est vrai que ça augure bien pour les prochaines années. Je fais juste mentionner aux gens, Kim Clavel sera avec nous un petit peu plus tard à l'émission, elle qui a gagné son combat, et tu sais c'est quoi sa première activité d'après-combat demain? C'est d'aller à la cabane à sucre, Antoine. T'as-tu un bon temps sucres?
Attends, les sucres bas sont pleins, nous, présentement. Je sais que les gens à Montréal, ça commence plus tôt et ça termine un petit peu plus tôt. Nous, au Saguenay, ça commence un petit peu plus tard et ça finit toujours un petit peu plus tard aussi. On est à la mi-saison de la cabane en ce moment. On produit pas encore beaucoup. On a une grosse semaine qui s'en vient avec des belles températures et la saison des brunchs aussi. Donc, on a de la boue dans le toupet. Je pense que je te le dis à chaque émission. Mais ça représente, je te dirais, à peu près 90 jours consécutifs, 7 jours sur 7, où on travaille, on n'arrête pas ben toute ma gang. Donc, on regarde l'été et le printemps avec un bon œil, puis on a hâte qu'il arrive.
Antoine, t'as regardé le match d'hier sans aucun doute. Je sais pas si t'as envie de revenir sur un élément particulier, sinon je t'amène ailleurs avec...
J'ai aimé la troisième période, en fait. Oui. C'est sûr, bien entendu, comme la plupart des gens, j'ai pas aimé leur deuxième période. Mais il y a des équipes qui sont plus capables de se relever puis de faire une grosse poussée par la suite quand ça trébuche de la sorte. Le Canadien l'a fait hier. J'ai aimé ça. Ça a été excitant. C'était plaisant à regarder. C'était divertissant. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai aimé la hargne que, en fait, les meilleurs joueurs de l'équipe ont fait preuve. Et comme tout le monde, j'écoute des fois aussi d'autres analystes s'exprimer sur le sujet. Puis notamment, il y a je nommerai pas qui, mais on disait je comprends pas qu'on prenne autant de risques de faire jouer le premier trio aussi souvent. Puis au final, moi je pense que simplement Martin Saint-Louis fait jouer le premier trio parce que c'est le plus méritant, c'est le trio qui mérite le plus, c'est le trio qui est électrisant quand il embarque sur la glace, qui crée le plus d'offensives et qui mérite le plus d'être sur la glace. Donc au final, on récompense finalement l'effort et j'aime ça voir ça.
Ouais, puis l'autre affaire, on va se dire, je pense les vraies affaires, Antoine, c'est que quand tu veux être compétitif et t'es le coach du Canadien avec ce que t'as sous la main, faut que tu joues à trois trios. Ou quand tu veux revenir dans un match, il y a pas ben d'autres façons d'essayer d'être dans un match contre les bonnes équipes. Dans tous les matchs où qu'il y a eu des victoires ou des matchs serrés contre des bonnes équipes, si tu regardais le temps de glace du premier trio, c'est du 20 minutes autour, et souvent en plus pour Suzuki notamment, là.
Non, c'est clair. Et puis c'est pas une recette d'une équipe gagnante, c'est une équipe qui va vraiment au bout de la saison puis qui arrive à vraiment maturité. Mais le Canadien est dans cette situation là où il manque un petit peu de profondeur offensive et c'est ça qui leur joue des tours. C'est pour ça qu'ils sont dans la situation actuelle, parce qu'il y a eu des mois où ça a été plus difficile et t'avais pas nécessairement de profondeur en début de saison notamment. Puis il y a eu un mois au mois de décembre, je pense, que où ça a été un petit peu plus difficile par la suite aussi. Donc vraiment, c'est pas idéal, mais c'est parfait de voir ces jeunes joueurs-là vraiment continuer leur progression. Puis j'ai aimé aussi ces commentaires d'après-match ce matin. Oui, c'est vrai que il y a une belle progression. Les matchs que l'équipe joue par rapport à l'année dernière sont sont complètement différents. L'année passée, si on se transporte dans le temps, on regardait une équipe que on le savait que c'était pas nécessairement l'équipe qui allait être là parce qu'il y avait beaucoup de blessés, il y avait beaucoup de joueurs qui remplissaient des petits rôles. Puis finalement, ben maintenant, on a une équipe où on peut voir un petit peu la lumière au bout du tunnel se pointer. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça qui est le fun. Puis est-ce que c'est pour demain tout de suite? Tu vas avoir une équipe gagnante à Montréal? Probablement pas. Mais d'ici un deux ans, je pense que c'est probable que c'est une équipe qui commence à toucher aux séries éliminatoires. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. On veut pas s'éterniser dans le fond du classement.
Une couple de petites vites avant de t'amener sur un autre point de discussion. Kucherov, sa mise en échec sur Goulet. Est-ce que ça méritait une pénalité? Non, puis est-ce que ça méritait une vengeance?
Maintenant, on ne sait plus qu'est-ce qui mérite une vengeance, pour être honnête avec toi, Mario. Dès qu'il y a un coup d'épaule régulier, il y a une vengeance. Donc, des fois, c'est un petit peu ambigu. On ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Puis on dirait que les jeunes joueurs qui arrivent dans la Ligue ne le savent plus non plus. Donc, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que la mise en échec, c'était une punition? Peut-être. Est-ce que c'est une suspension? Je ne pense pas. Kucherov aussi, les arbitres le savent aussi. C'est quand on arbitre un match, on arbitre aussi les joueurs qu'on a devant nous. Et quand Kucherov donne un coup d'épaule, je veux pas dire qu'il y a un traitement de faveur, mais on prend quand même avec des pincettes dans le sens où c'est pas le joueur le plus salaud. Il donne des mises en échec une fois de temps en temps dans un match. C'est quand même assez rare qu'on le voit faire. Donc,
mais tu sais, la collision entre deux gars de Tampa Bay hier, Eagle et Stamkos, les gars, ils regardent pas puis ils pensent que c'est Jack Eye qui les a frappés. Immédiatement, c'est la culture du Lightning de Tampa Bay, on saute sur le gars. Là, ça a eu l'air fou parce qu'ils ont vu la reprise, puis dans le fond, il n'y avait pas de fautif. Mais eux autres, ils se posent pas la question. Eux autres, c'est tu sautes sur le gars. Fait que donc, si c'est Tampa Bay, si Goulet joue pour Tampa Bay hier, là, eux autres, ils sautent sur Kucherov. C'est sûr.
C'est officiel, ils se posent pas la question. Puis c'est une culture d'équipe. C'est une culture d'équipe qu'ils ont développée, qui leur manquait. On aime ça se transporter dans le temps ce soir. Mais si on se rapporte encore une fois à quelques années avant qu'ils gagnent la Coupe Stanley, c'était problématique ce genre d'attitude du côté de Tampa. On n'était pas nécessairement l'équipe la plus robuste. On n'aimait pas ça, se battre les mains tant que ça. Puis finalement, on a découvert que si on voulait gagner, il fallait
se salir
les mains. T'as pas le choix un petit peu. Et quand on voit le capitaine Stamkos notamment qui a pas peur d'embarquer là-dedans, puis moi c'est vraiment la grosse différence que j'ai vue quand l'équipe a gagné la Coupe cette année. Lui était prêt à se salir les mains aussi. Il a embarqué là-dedans, puis il se laisse plus manger la laine sur le dos. Et ça a un peu changé sa façon de jouer, puis son agressivité, puis son son attitude, mais c'est un peu ça. Il a changé ses perspectives et
Il est devenu un guerrier avec du talent dans le fond.
Exact, tout à fait. Et c'est ça que ça prend.
Parlant de guerrier, je le sais qu'il a l'âme d'un guerrier, puis on a vu des beaux flashs particulièrement l'an passé. C'est une saison où évidemment il a manqué une bonne partie du calendrier. Que penses-tu de ce que tu vois de Raphaël Harvey-Pinard, puis où il va repartir l'an prochain dans la hiérarchie du Canadien? Où va-t-il réussir à se placer? Parce que l'an passé, c'était très emballant. Cette année, je comprends qu'il n'a pas pu prendre son air d'aller, puis il joue pas non plus avec des premiers de classe non plus, là.
Non, ça c'est sûr, il joue plus avec Nick Suzuki, donc il a moins cette tête-là. Quand tu joues avec Nick Suzuki, ça te donne de l'oxygène, c'est plaisant, parce que tu lui donnes la rondelle, tu fonces au filet, il y a des jeux qui se font un petit peu plus naturellement et beaucoup plus facilement. Maintenant, il n'y aura plus nécessairement cette opportunité-là de jouer sur le premier trio. Le premier trio, il est connu, il est fait pour les 10 prochaines années probablement avec le Canadien. Donc, est-ce qu'il va avoir cette opportunité-là? Non. Est-ce que sur un deuxième trio avec probablement un New Hook va toujours être en avant de lui malheureusement pour le moment, Dak puis peut-être un autre. Après ça, on tombe au troisième trio avec probablement Armia qui reste l'année prochaine, un joueur de centre, Dvorak, Evans, puis on tombe à gauche. Est-ce que Roy reste là aussi? Est-ce qu'on lui donne cette opportunité-là? Fait que Raphaël va devoir se battre pour son temps de jeu. Mais moi, j'ai aimé son début de saison. J'ai aimé. Il s'est blessé. Il est revenu aux blessures. Il n'y a pas. Mais il crée de l'offensive, il crée des chances de marquer. Il était vraiment, on le voyait clairement sur la glace. Mais la deuxième blessure, ça ça l'a vraiment ralenti, puis c'est dur de revenir au jeu dans une saison de la Ligue nationale, surtout après une deuxième ou une troisième blessure, c'est compliqué mentalement, t'es drainé parce que c'est dur de revenir, toute la réhabilitation qu'il faut que tu fasses, c'est des heures, c'est du stress, c'est de poser des questions comme tu viens de le poser, tu te la poses aussi en tant que joueur, où est-ce que je vais me rendre l'année prochaine, jouer avec qui, dans quelle situation, c'est beaucoup de questions que tu te poses puis t'es pas capable de répondre. Tu te contrôles ce que tu peux contrôler, mais au final, c'est beaucoup de stress et malheureusement, ben, la fin de saison n'est pas comme celle du début de saison, mais je m'inquiète pas parce que Raphaël, c'est un gars qui s'entraîne excessivement fort. C'est un gars qui est têtu, il est concentré, puis il a laissé prioriser la bonne place. Et ça, c'est tout ce que tu veux avoir, c'est des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale, des joueurs qui, tu sais, qui sont que leur état d'esprit t'amène à un autre niveau et c'est la recherche de développement. Puis lui, il a tout ça. Donc ça va être un été difficile où il va probablement devoir évacué. Moi, je me souviens, j'avais déjà connu une saison vraiment difficile. J'avais recommencé à m'entraîner physiquement, vraiment, là, tu sais, l'entraînement physique, lever des charges, lever du poids, au moins 6 semaines à 7 semaines après la saison. Mais je faisais autre chose, je m'entraînais, je faisais des hikes, je faisais du vélo, je faisais du sport, mais c'était pas le temps de me parler de préparation pour l'année prochaine. Il fallait que je balaye vraiment la saison, puis que ça me sorte du corps pour que je m'ennuie vraiment de me réentraîner, puis de penser à la glace et tout ça. Donc, est-ce que ça va être ça? Je le sais pas, mais pour moi, j'avais vécu ça, puis c'est comme ça que j'avais géré la situation.
En terminant, juste un petit mot, qui va finir en 8e place, la dernière? Ben, en tout cas, ou qui va se faire sortir des séries, là? Parce que dans la métropolitaine, la 3e place est pas tout à fait assurée encore, puis là, ben, t'as la dernière place wild card ou des équipes repêchées. Qui va passer, tu penses?
Ben, je pense que les Capitals risquent de passer, mais peut-être même le Détroit aussi, s'ils sont capables de...
Les Canadiens jouent deux fois contre Détroit, ils peuvent avoir leur mot à dire là-dedans, là.
C'est clair, ça pourrait vraiment être intéressant de voir à quel point ils vont pouvoir se faufiler, mais Détroit pourrait se faufiler en 8e place et qui sait, les Capitals pourraient se faufiler eux aussi en 3e place de la métropolitaine. Donc il y a vraiment beaucoup à jouer. Est-ce que les Pingouins sont sortis complètement? Je le sais pas, ils viennent de gagner trois matchs consécutifs, mais au final, eux vont avoir à l'avantage parce qu'ils ont plus de matchs gagnés en temps régulier. Les Pingouins, ils en ont 30. Les Islanders, pour moi, c'est ça leur talon d'Achille parce qu'ils vont devoir battre toutes les équipes.
Ils sont rendus à 34. Ouais, t'as raison.
Et s'ils sont sur un pied d'égalité, ben, le première chose de barrage, c'est les gains en régulation et eux en ont seulement 25. Les Capitals en ont 28. Les Flyers en ont 28 aussi. C'est compliqué. Donc, va falloir qu'ils gagnent quasiment tous leurs matchs d'ici la fin de la saison.
Les Islanders contre les Canadiens également. Les Canadiens jouent 4 fois contre des équipes qui ne peuvent pas perdre. Alors, retourne à ta broue dans le tout perte, mon Antoine, avec les activités de la cabane en fin de semaine. Je te souhaite et je vous souhaite à tout le monde un excellent week-end. À bientôt, mon ami.
Merci, Mario. Bon week-end à tous les auditeurs et à toi-même aussi.
Merci beaucoup.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Stéphane et Pierre, bien le bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Salut Mario.
Mes deux joueurs de centre, ailier gauche et ailier droit. Et notre invité, on est très heureux de l'accueillir, nul autre que Kim Saint-Pierre. Allô Kim.
Allô, bonsoir tout le monde.
Tu sors à peine de sur une glace, comme faut-il s'en étonner?
La saison de hockey, ça sent la fin, mais malheureusement, là, c'était une des dernières pratiques avec notre équipe ce soir. Donc ça fait du bien de passer à autre chose aussi.
Avec votre équipe, ça sent la coupe?
Non, on peut-tu passer à une autre question?
c'est quoi votre équipe au juste, Kim? Est-ce que tu es impliqué avec tes garçons?
Oui, c'est ça, avec mon plus jeune cette année, Aiden, de 10 ans. Moi et mon mari, Lenny Jo, on coachait le Atom 2A pour les North Stars dans le lac Saint-Louis.
Gros calibre, là.
Alors, c'était vraiment une belle saison, une super gang. Malheureusement, en série, ça n'a pas tourné pour nous autres, mais c'est
Moi, tu les as faites, les séries, toi. Hein?
Exactement.
Comment tu as trouvé ça, l'expérience? Comment tu trouves ça? C'est-tu ta première année de coaching? Ça fait quelques années que tu coaches?
Non, ça fait plusieurs années que je suis impliquée justement avec mon mari. Là, depuis que les gars sont mag, on a commencé à s'impliquer comme parent-entraîneur. Puis par la suite, ben on s'implique. Hein, on l'a tellement vécu à plusieurs niveaux que là, c'est la moindre des choses. C'est le fun de redécouvrir un peu tout ce qu'on a vécu à travers leurs yeux, leurs sentiments, leur rage parfois. Mais c'est vraiment pour nous de redonner au sport qui nous a tant donné, c'est important. Et puis, on apprend aussi beaucoup là-dedans.
Ah, certainement. Je me demande comme ça, brûle pour point, il y a dû y avoir déjà un autre couple, mari et femme, qui coach, mais peut-être que vous êtes le premier couple officiel de l'histoire à diriger un club élite.
Sérieux,
ça
ne
doit pas
être
arrivé souvent.
C'est rare. Ouais. Mais la plus belle histoire, c'est l'année passée. J'avais mes deux garçons dans mon équipe à Tombe 2A et moi et Lenny Jo qui coachaient. Donc ça, c'était assez spécial à chaque soir, partir à l'aréna, faire les pratiques ensemble, les matchs, les tournois. Ça a été vraiment une année formidable. Donc,
Fait que là, s'il y a des parents qui sont pas contents du temps de glace puis ils trouvent que vos deux gars sont favorisés, ils ont affaire à deux coachs avec qui argumenter. Hein?
Oui, exactement. Il y en a parfois des parents un peu moins heureux. Mais bon, ça fait partie un peu de l'expérience.
C'est ce qu'on entend dire.
Oui, c'est ça. À ce niveau-là, les parents font quand même partie de l'aventure. Et puis, c'est d'essayer de leur faire comprendre notre philosophie. Quand on coach, je tombe. C'est pas nécessairement comme le Pee-wee, le Bantam. Nous, on sait beaucoup le développement. Faire sentir à chaque enfant qu'il a sa place, qu'il fait une différence dans l'équipe. Parce qu'on sait que... Hein, on a vu des histoires. Je suis certain, Pierre, que tu as vu énormément d'histoires. Que c'est loin, la Ligue nationale. Il faut pas juste penser à ça. Donc, c'est la philosophie à Alénie et moi un peu cette année. Puis, on peut pas toujours faire des heureux, mais on fait notre possible.
J'en doute aucunement. Pierre, évidemment, ça sent la coupe pour les gens qui... Ben, je suis sûr que tout le monde a compris le concept, mais il y a toujours des nouveaux auditeurs à chaque semaine. Évidemment, c'est que t'es devenu un amoureux du vin à travers, en plus, tes 35 années avec le Canadien de Montréal. Ben, ça t'a donné l'occasion de visiter un paquet de trucs, d'acheter un paquet de bouteilles pour l'équipe souvent. Puis, ben, t'es notre sommelier maison 98.5.
Ça vient pas de lui. Mais il est resté 35 ans avec le Canadien. C'était juste pour aller visiter les meilleures places sur la route pour acheter le vin.
C'était ça sa motivation. Puis, empêchait Paturity de mettre du stock dans le camion puis dans l'avion pour ses. Les priorités aux bonnes places, Pierre.
Bonne place, c'est ça, effectivement.
Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine?
Cette semaine, ça s'appelle La Vieille Église. C'est un Côte de Marmandais 2021. Comme vous voyez, ça se boit très bien. On avait goûté l'an passé, Mario, dans le millésime 2020. Et le code, c'est le 560748. Ça, c'est dans les Bordeaux génériques. Là, à la SEQ, il est facilement disponible. C'est vraiment très bon. 15,25 $. Fait que ça...
On respecte les budgets de tous et toutes.
Ouais, donc ça, c'est effectivement.
J'aime ça. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai, c'est le fun. Puis ouais. C'est comme quoi, on n'est pas obligé de se mettre dans la rue pour boire un bon vino. Serais-tu capable, tu penses, là, une dégustation de vin? Tu sais, nous autres, on marche souvent, tu sais, on pense que plus tu payes cher, tu vas nécessairement boire quelque chose de mieux. Mais mettons, à l'aveugle, là, tu ferais-tu une différence entre un vin de 70$ et un vin de 25$?
Je vais te dire que... Écoute, généralement, oui. Peut-être pas celui-là. Celui-là, il est 15$ puis il est bon pour 15$. Mais celui de la semaine passée, le Libanais qu'on a bu, là,
oui.
Le vin du Liban, là,
oui.
Dire une affaire, ça, je pourrais...
Tu pourrais piéger quelques dégustateurs.
Bien du monde avec ça. Puis il y en a quelques-uns comme ça. Là.
C'est
surprenant.
Bon, toutes les semaines, question de donner le ton à l'émission puis nous amener sur quelques sujets d'actualité. Je demande à Pierre et aussi à partir de cette semaine à Stéphane d'y aller avec son grand cul et sa piquette. Mais évidemment, d'abord à toi, Pierre.
J'espère qu'on n'a pas les mêmes.
Oui, j'espère.
Non, c'est ça, ouais.
Grand cru et piquette cette semaine. Tu commences par?
Bien, grand cru, ça donne bien parce que Kim est avec nous. Fait que la victoire de Kim Clavel.
Qui sera avec nous tout à l'heure, d'ailleurs, en troisième heure.
Effectivement. Oui. Ça, je trouve ça bien, bien cool. Et puis, la victoire de l'équipe féminine au championnat mondial.
Centième
contre
de l'histoire.
Exactement. Donc, c'est mes deux grands crus de la semaine.
Dans le ton de la visite de Kim, je vois
exactement,
que...
Exactement, ça
c'est
bien.
C'est un bon timing.
Très bien. Timing is everything, comme on dit. Et puis, ma piquette, ben écoute, c'est le début du match Rangers...
C'est bon.
Ça, je trouve ça tellement déplorable. On dirait qu'on fait un recul dans la Ligue nationale, puis on a parlé l'autre jour, puis même Abecomo, c'est arrivé dans le hockey mineur encore cette semaine. Sincèrement, là, oh my God.
Qu'est-ce qui est arrivé pour les gens qui sont pas au courant, Abecomo?
Oui, Abecomo, ben, tu sais, là, il y a encore eu des trucs entre les partisans, les joueurs, ainsi de suite. Là, ça virait au vinaigre, là, un petit peu comme à Saint-Eustache l'autre jour. Puis c'est vraiment désolant, mais surtout, là, début de match. Écoute, quand j'ai vu ça, là, la scène des 10 joueurs sur la glace se battre, là, imagine-toi, t'es à New York, là, parce que c'est à New York le match. T'es un homme d'affaires, t'invites un homme d'affaires qui vient, je sais pas, du Japon. Puis là, tu l'amènes super à New York, tu l'amènes au Madison Garden. Là, tu expliques un petit peu l'histoire des Rangers, puis le MSG, puis tout ça, puis le hockey, c'est quoi un petit peu. Puis le gars s'assoit, puis ça part, cette affaire-là. Ouais. Là. C'est comme quasiment gênant. Honnêtement, ça n'est rendu quasiment gênant.
Tant qu'à moi. Hey, sais-tu quoi? Ça sera pas scientifique, là, mais des fois, je me demande si on est plus prude ou politiquement correct que la majorité des gens par rapport à ça. Puis j'aimerais ça vous lire à la messagerie texte au 98985. Aimez-vous ou vous aimez pas la bagarre?
Juste
pour savoir. Je ne demande pas des règlements, rien. Juste vous aimez pas ça. As-tu vu ça, cette séquence-là, Kim, par hasard, ou Fassayan, début du match l'autre soir?
Oui, oui. Puis je suis d'accord que ça n'a pas sa place, là.
Mais comment tu réagis quand ça arrive? Mettons, là, tu vois ça aller.
T'as pas formé la télévision, pardon, certain.
Non, une chance, mes enfants étaient pas là pour voir ça.
T'aurais-tu tourné de poste, tes enfants?
Non, ils auraient aimé ça voir ça, là, sont en âge pour comprendre, mais tu sais, je trouve que ça a pas sa place. Même les bagarres en général, ça, je sais que ça va émettre beaucoup différentes opinions, mais tu sais, moi, je pense que le hockey doit passer à autre chose. On pense que les joueurs doivent se battre pour régler des problèmes, mais je pense qu'avec le changement de mentalité, on pourrait arriver à enlever les batailles, puis ça serait correct aussi, mais
pour régler les problèmes comment dans le hockey féminin, s'il n'y a pas de bagarre?
Ah, on est plus intelligente.
Non, mais comme quoi, il y a peut-être pas tout le temps un problème à régler, ou c'est juste ça fait partie du folklore, c'est quoi?
Non, exactement, au hockey féminin, ça fait pas partie.
Hockey international, même masculin, il n'y a pas de bagarre.
Il n'y a pas en Europe, il n'y a pas dans le CIA.
C'est ça, mais ça m'a fait qu'au hockey féminin, ça fait partie de la culture de ne pas se battre. C'est une question de culture, puis au hockey... Mais
ça en fait partie.
Au hockey masculin, ça en fait partie, puis c'est... On évolue un peu.
Je lisais dans les notes historiques du premier match de l'histoire qu'il y a eu au Canada, que ça avait fini par une mêlée générale avec les spectateurs, comme quoi, tu sais, ça a parti de même. Stéphane, ton grand cru, puis ta piquette?
Moi, mon grand cru, c'était... Jerve, je connais bien, Joël Armia.
Oui, j'ai pensé à ça aussi.
Et puis...
Mon homme!
Moi, je suis d'accord, je sais, puis je t'écoute, Mario... Je suis un de tes auditeurs quasiment tous les soirs, puis je sais que tu l'aimes bien, avec raison.
Je l'ai défendu, en tout cas, quand tout le monde tapait dessus.
Ben, c'est ça, mais avec raison, parce que j'ai tout le temps aimé ce joueur-là. Oui, son plus gros défaut, c'est sa mot juste de constance. Si le joueur qu'on a là, depuis un mois, là, c'est le joueur à qui on a donné...
Le contrat.
3,8. C'est ce joueur-là. C'est ce joueur-là, puis c'est... C'est ce joueur-là qu'on va voir tous les soirs. Si Joël, il serait le même, tu peux pas faire ça 82 games par année. Mais même les 70 games, là, qui joue comme qui joue depuis un mois, là, ben moi, j'en ai pas, il vaut toutes les cents qu'on lui donne.
Ah, ma raison.
Et puis, ça serait un, dans une bonne équipe, ça serait un bon joueur de troisième trio, gros, fort, capable d'aller au filet, un bon lancé, bon un contre un, bon sur le bord des bornes. Combien de fois que je disais au coach quand j'étais Canadien, dans les pratiques, que je disais, bon, j'étais à côté de Luke Richardson, je disais, calique, quel air d'un joueur de première ronde. Ce qui est d'ailleurs. Mais il avait de la misère à amener ça dans les parties.
Problème de confiance aussi, je pense. On interprète souvent ça comme un manque de volonté.
Et de constance.
Ça va pas ensemble?
Non, pas nécessairement. Tu as des joueurs qui sont très confiants et qui n'ont aucune constance. Et puis.
Point.
Mais Joël, écoute, il est rendu à 16 goals. Ça, 16 buts. Ça, c'est le troisième, ça, après Suzuki puis Caulfield. Et ça, les gars, avec 16 matchs de moins de jouer que ces gars-là.
Ça te donne une idée pareille.
Quelle
là.
Saison! Et Caulfield, Suzuki sont sur les premières unités d'avantage numérique. Pas Armia. Donc, ça pour dire. C'est toute une saison qui nous montre.
Il y a juste tendance à ramollir. Hein? Tu sais, c'est un gars qui.
C'est un gars de talent. C'est pas une brute. C'est un gars de talent.
Quand tu y parles, il est dans l'environnement, là, le gars, il est smooth, il est bien relax. Mais il a tendance à manquer ça un petit peu.
Oui, mais depuis un mois et demi.
Ça, c'est sûr.
Et à tous les soirs, on parle de ses buts. Mais c'est bon, quel job qu'il fait sur des désavantages numériques. Avec Evans, c'est le meilleur joueur du Canadien.
Il a été ovationné hier sur une séquence qui a gardé les gens en zone adverse en désavantages numériques, même pas après un de ses buts.
Oui, exactement. Et c'est un des très rares attaquants du Canadien qui est dans les plus 3. Donc.
À suivre.
Tout ça pour dire que c'est mon grand cru.
Bravo, tout un grand cru cette semaine.
J'espère que ton grand cru va aussi bien vieillir que des vrais grands crus.
Avec Joël, on peut pas le garantir.
As-tu un joueur préféré, Kim Saint-Pierre, qui est avec nous ce soir chez le Canadien de Montréal?
Je peux pas passer à côté de Samuel Montembeau. Je pense que son évolution est tout à fait incroyable. Il a pas été mis dans une situation facile. Il est arrivé premièrement un gardien québécois à Montréal. Price doit quitter, donc énormément de pression sur les épaules. C'était pas facile. Il y avait de la misère avec sa constance, justement, en lignée quelques victoires consécutives. Puis cette année, c'était sa chance. Puis c'est ça qui détermine un bon athlète d'un excellent athlète. C'est quand c'est le temps, c'est là que tu dois réussir. Puis c'était pas évident avec 3 gardiens aussi. Ça, c'est une des pires choses pour des gardiens de but quand tu dois partager à 3.
Ça te fatiguait-tu comme observatrice de voir le trio? Ça finissait pas, là, finalement, cette situation-là?
Oui, mais je trouve que les 3, ils ont réussi ensemble parce que, veux pas, c'est une compétition à l'interne. Mais tu te pousses l'un l'autre. Le seul désavantage, c'est que tu ne goals pas beaucoup de matchs. Puis c'est là que tu deviens un meilleur gardien, surtout 2 jeunes comme Primo puis Montembeau.
C'est 3 bonnes personnes. Si t'avais un gardien de but là-dedans, un genre de Belfour, je sais pas trop quoi, là, il est pas sûr que ça aurait bien été, mais c'est 3 bonnes personnes.
Un Jeff Hackett.
Ouais, c'est ça.
Mais, à Piquette.
Ouais, t'as pas dit ta piquette? Vas-y donc.
Mais ma piquette, c'est...
C'est moi.
Je pensais que c'était le début du match l'autre soir, c'est pour ça.
Non, mais c'était le début du match, mais ça a rapport à ça. Moi, c'est les 2 coachs.
Ah.
C'est les 2 coachs.
C'est eux autres qui ont provoqué
ça. C'est Travis Green puis Pierre Laviolette. Les 2 s'engalaient puis les 2 se sont accusés d'avoir parti ça. Mais premièrement, j'en veux à Travis Green d'avoir mis son 4e trio, dont McDermott. L'alignement partant. À partir de là, t'as la Violette qui est locale. Il est pas obligé de répliquer avec Rampy. Il est pas obligé. Il aurait pu dire OK, moi, je vais y aller avec mon meilleur trio. Et puis, il a répliqué pour que ça se passe. Donc, les 2 sont responsables. Dans mon livre à moi, les 2 sont aussi responsables qu'un l'un de ce qui s'est passé dans ce début de match.
J'étais étonné qu'il n'y ait pas d'amende. Le soir même, tu t'attendais.
Ben oui, le soir même, je t'en parlais. Je m'attends à ce que la Ligue mette les entraîneurs à l'amende. Parce que ça part d'eux autres.
Mais je pense à faire leur affaire à la Ligue, honnêtement, de plus en plus. Là. Hey.
Kim, tu penses-tu qu'il va y avoir de la bagarre un jour dans la LPHF?
Non, déjà que les filles, ça joue beaucoup plus physique. Puis ça, je pense c'est énormément apprécié de tous. Premièrement, des filles. Je pense qu'on demandait toujours d'avoir un peu plus de liberté, justement, pour le contact. On sait contre les Américaines, ça jouait quand même assez rough dans les championnats du monde. Mais là, que la Ligue a accepté que le niveau augmente, je trouve que ça change totalement le jeu. Ça apporte beaucoup d'intérêt.
T'aimes-tu ça?
Ah oui, moi j'adore ça. C'est sûr que c'est un ajustement pour les joueuses. Parfois, les arbitres vont appeler, des fois ils appellent pas. Donc c'est un peu la confusion du début. Mais je pense que après la première saison, on va plus peut-être s'entendre sur qu'est-ce qui est permis puis qu'est-ce qui l'est pas. Mais moi, je trouve que ça apporte énormément là de points positifs, plus de robustesse. Les filles sont fortes, s'entraînent tellement fort. C'est la ligue professionnelle, donc je pense qu'il fallait vraiment aller de l'avant avec ça.
Mais c'est ça. Le hockey, c'est un sport robuste. Il y a une différence entre être robuste puis d'un cirque.
Mais on dirait que pour les partisans en barque, il faut amener l'élément qui va faire qu'on va s'enrager à un moment donné, soit contre l'arbitre, soit contre l'autre club. Tu sais, c'est ça que ça provoque. Vous le viviez un peu quand même, parce que c'était très intense, surtout les matchs Canada-États-Unis qui aimaient là. Dans la LPHF, tu vois que là, on a un niveau d'intensité. Il va y avoir des rivalités, puis même des guéguerres personnelles entre certains adversaires, là, certainement. Là.
Ah, c'est sûr qu'au niveau de la rivalité entre les équipes, je pense que déjà, c'est assez installé après seulement 19 matchs là, pour chaque équipe. Mais tu sais, je trouve ça super beau, là, un contre un, le long de la bande, au lieu de laisser passer un peu la joueuse avant, ben on la cote dans la bande, puis la foule réagit, puis ça aussi, ça donne un peu d'adrénaline aux joueuses. Donc, faut apprendre, parce que c'est quelque chose que les attaquants défenseurs n'ont pas travaillé beaucoup dans leur évolution en tant que joueuses de hockey. Ben, en parlant avec les filles de Montréal, c'est quelque chose qu'ils adorent, puis je pense qu'on va continuer à évoluer là-dedans, puis les filles vont s'entraîner. Ils s'entraînent déjà tellement fort que, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de blessures blessures. C'est, tu sais, sont tough, les filles, là. Faut pas avoir de doute, là. Puis ils sont prêtes à relever cette défi-là.
Oh, je suis pas inquiet. Kim Saint-Pierre est notre invité à Ça sent la coupe. Un bon vendredi soir. Veux-tu me répéter le numéro de code, Pierre? Des gens me le demandent à la messagerie texte.
Le numéro de code est le 560-748.
Vieille église.
Oui, c'est de la vieille église.
2021. Alors voilà,
c'est dans la section des vins Bordeaux à la SAQ, vin générique.
Ouais, tu m'as fait changer mes goûts, Pierre, depuis un an, veux pas.
Bon, un autre va me blâmer.
Non.
Tout le monde me blâme parce qu'il boit du vin.
Non, pas que j'en bois plus, oh, ouais. Je bois pas la même chose.
OK, ben tant mieux, c'est le fun.
Ouais, je suis revenu comme en Europe un peu plus, c'est j'étais très californien. Sucré, trop fort. Là, comme on dirait que j'apprécie de...
Ça, c'est des vins santé.
T'as changé ma vie, Pierre. On revient dans un instant après ces quelques messages.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Ouais, nous revoilà. Kim Saint-Pierre est notre invité ce soir à Ça sent la coupe. Beaucoup de messages sur, d'ailleurs, il y a des gens qui disent, waouh, Kim, super voix radiophonique. Alors, en partant, ben, la radio, on entre par le son. Alors, c'est une entrée réussie de la vie des gens. Philippe qui nous écrit, je suis contre les batailles. Nous voulons voir du talent sur la glace et la société évolue. Ceci dit, l'argent parle et la partie des Rangers a généré des clics, du marketing, donc des revenus pour la ligue et des proprios et l'association des joueurs sont tous complice et un peu hypocrite. Si Diga ou IGA se bagarrent, la police va intervenir, mais pas dans la LNH et le succès de Gary Bettman. D'accord, pas d'accord avec son affirmation, Kim?
Oui, c'est sûr que c'est sur la glace, on dirait qu'on a des droits différents, puis c'est sûr que ça arrive, comme on dit, au IGA ou ailleurs, il va y avoir des actions qui vont être prises. C'est pour ça que je pense qu'il faut arriver à éliminer les batailles, justement, puis ça serait d'aller dans la bonne direction. Là.
Allô, gang, viens nous dire Fred de Drummondville, j'aime une bonne bagarre dans le feu de l'action, mais pas organisée comme à New York cette semaine.
Oui, bien c'est ça, mais c'est direct ça, je suis tellement d'accord. Cette semaine, c'était stagé. Puis encore une fois, je reviens, les deux coachs qui pour moi sont responsables. Ça aurait pu partir tes meilleurs joueurs sur la glace. Puis à un moment donné, ces deux-là, ça aurait rencontré quelque part. Ça aurait réglé le problème, on n'aurait pas parlé.
Il y a Claude qui nous écrit que j'ai rencontré Kim au Canadian Tire. Claude Vertu, hyper gentil. Elle m'a dit que l'équipe canadienne était avec Canadian Tire pour la publicité. Homme d'entretien, Claude, bravo Kim. Je sais pas si tu le situes dans tes nombreuses interactions avec le public, parce que le public te reconnaît depuis 2002 particulièrement, Kim.
Ah oui, c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens, puis de les saluer. Puis s'ils me reconnaissent, c'est parce qu'ils ont suivi le hockey féminin ou il y a de l'intérêt pour le hockey féminin. Donc pour moi, je prends toujours le temps de discuter avec eux, de voir qu'est-ce qu'ils pensent du hockey, puis on a besoin de plus de fans qui suivent le hockey féminin, donc merci, c'est toujours un plaisir de partager du temps avec ces gens-là.
La communauté d'auditeurs et d'auditrices des vendredis soirs de Ça sent la coupe grandit de semaine en semaine depuis qu'on a commencé cette aventure-là, mon Pierre, et salutations particulières à un gars qui a vidé les tablettes d'une SAQ d'une de tes suggestions.
C'est encore de ma faute.
C'est toi le coupable.
Non, c'est moi le coupable.
Ta cote doit être bonne à la SAQ, toi, tu vois.
J'aimerais ça, honnêtement. Là,
donnes-tu des points sur ta carte?
Salutations à Michel Julien, vraiment, qui nous envoie un beau message, qui disait qu'il trouvait notre segment vraiment le fun, vraiment cool. Puis lui, ses deux passions, en fait, c'était le vin et le hockey. Fait que c'est super le fun. Puis comme tu disais, Mario, de plus en plus, il y a des gens qui m'en parle, qu'on s'en rend compte, qui aime ce segment, puis c'est vraiment cool. C'est le vendredi soir, c'est relax, puis on a du plaisir, puis il n'y a pas trop de technique là-dedans, puis ça fait du bien.
Michel Julien t'a dit, ben il est à l'écoute live, parce que c'est à messagerie texte, il y a Michel Julien en direct d'Harford qui nous souhaite un bon show, les boys, en compagnie de la belle Kim Saint-Pierre. Voilà, voilà. Un autre commentaire, je vais vous lire, j'ai hâte de voir comme ça va nous amener sur un autre sujet. Et on va, les fans d'abord, Kim, tu pourras répondre. Yves qui... m'attends ce soir en début de show. C'est le fun de savoir que les gens sont là, prêts, mais bonsoir, M. Langlois. Ça commence, désolé d'être négatif. Mais M. Saint-Louis n'est pas Tobe Blake, Scotty Bowman, Jacques Demers, et surtout pas le roi, R en majuscule. Désolé d'être négatif, mais la réalité est là. Avec tout mon respect. M. Deshaies, salutations, merci d'être à l'écoute. Que penses-tu de Martin Saint-Louis?
Ah, c'est une bonne question. Ben moi, j'ai adoré son entrée avec le Canadien de Montréal. Là. Disons que c'est arrivé, il coachait des jeunes Pee-wee, mais tu sais, parfois on dit que c'est pas parce qu'on était un bon joueur qu'on va être un bon coach, mais Martin, c'était tout un joueur, c'était un leader. On le voyait à travers ses années, soit en début de carrière jusqu'à la toute fin. Donc, c'est pour moi le bagage qu'il a apporté, puis la situation dans laquelle le Canadien était quand il est arrivé, ça prenait plus que des stratégies, des systèmes de jeu. Ça prenait un rassembleur, ça prenait quelqu'un qui était capable d'allumer le feu en chaque joueur. Ça prenait vraiment, tu sais, fallait, comme on disait, out of the box, là, sortir un peu de la tradition de tu sais, il y avait des personnes qui étaient en lice, mais d'avoir été chercher un gars, un ancien joueur comme Martin, je pense que ça a été vraiment un bon coup. C'est sûr qu'il n'y a pas l'équipe non plus pour gagner la Coupe Stanley. Fait que moi, je pense que ce qu'il fait présentement, c'est quand même exceptionnel, là.
Moi, je suis d'accord. J'ai connu Martin, ben, je l'ai connu comme joueur aux Olympiques, tout ça. Puis je l'ai eu comme mes derniers mois en tant qu'instructeur du Canadien, puis il m'a beaucoup impressionné. J'aurais aimé ça savoir pourquoi, la raison pourquoi il dit ça.
Ouais, c'est ça, c'est dommage. Cette semaine, j'ai eu une couple d'appels après le match. Je sais plus quand, donc, un soir, là, c'est parti, deux, trois appels.
Mais c'est peut écrire pour dire pourquoi c'est bizarre. Ouais, c'est quoi?
Ouais, exactement. Parce c'est vrai que
Martin,
c'est pas.
Écoute, il enseigne bien, les gars l'aiment bien. Ouais,
peut-être
il
qu'il se base par que depuis trois ans, il gagne pas. Non?
Non, mais là, ça s'en va à montant. Non? Ça s'en va. Ça prend du temps pour ça.
Non, mais c'est...
Ben lui, ça fait deux ans, grosso modo.
Deux ans et demi. Deux ans et demi.
Mais oui, peut-être.
Je sais pas. Je veux pas mettre les paroles dans sa bouche.
Ouais, mais il y a quelqu'un qui est arrivé en onde cette semaine. Puis tout était noir. Donc, là, il y avait. Josh Anderson ne marchait pas. C'est de la faute du coach. Puis là, Cole Caulfield, on est en train de le transformer en un joueur défensif, etc. Mmh. Tu sais, quand quelqu'un veut voir une...
Oh, oui, mais il y a sûrement ses raisons. Puis il n'y a peut-être pas tard de A à Z.
Mais tu trouves-tu... Ben vas-y, je te laisse enchaîner là-dessus. Tu trouves-tu qu'il y a des éléments où on peut regarder et dire, ouais, je suis pas sûr que c'est la bonne approche?
Ben moi, pour l'instant, c'est la bonne approche. Puis pour l'instant, ce que j'aime de lui, c'est qu'il est bon avec les jeunes parce que c'est un communicateur incroyable. OK? Ça, c'est un des bons communicateurs que j'ai vu comme entraîneur. Et ça, maintenant, avec les jeunes, c'est une des qualités les plus importantes. Ceci étant dit, quand que ça va être le temps de gagner...
On est tous curieux.
C'est là qu'on va voir quel coach qui est.
Exact.
Parce qu'en ce moment, il n'y a pas la pression d'être obligé de gagner. Oui, il veut gagner. Il n'y a aucun doute, mais on l'a encore vu hier en sortant le gardien de but avec 4 minutes que, en mettant ses meilleurs joueurs à profusion. Oui, il veut gagner. Mais il n'est pas obligé de gagner. Il n'a pas la pression de dire, si on perd à soir...
Ça fait pas mal tant que ça de perdre.
C'est grave, si on perd à soir.
Mais moi, je trouve que ça soit...
J'espère
grave.
Que c'est la dernière année que c'est
parce
comme
que
ça.
Je te l'ai déjà dit, Mario. J'ai déjà connu ce genre de situation-là avec Denis Savard. Quand que Jonathan Toews est arrivé, Patrick Kane est arrivé, Duncan Keith, Seabrook est arrivé, on n'avait pas la pression de gagner, puis on avait le meilleur coach à ce temps-là pour... amener ces joueurs-là à un autre niveau parce que Denis Savard il me fait penser à Martin Saint-Louis. À un moment donné, Denis Savard n'a pas eu la chance de prouver qu'il pouvait gagner cette équipe-là parce qu'on lui a pas donné cette chance-là. Mais l'organisation a jugé que ça prenait un coach qui peut les amener à un niveau supérieur qui était Joel Quenneville, un gars d'expérience. Mais c'est là que j'ai hâte de voir si Martin va pouvoir faire...
C'est lui qui va les amener là ou ça va être un autre?
Exactement. C'est là que je vais pouvoir dire... Mm-hmm. Quelle sorte de coach qu'il est, mais pour le moment, il fait la job.
Quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus?
Non, c'est ça, puis je comprends ça, puis ouais. Ça. Je trouve que ça s'en va en s'améliorant lentement, mais c'est normal que ça prend le temps que ça prend, mais comme Stéphane dit, je suis entièrement d'accord. L'an prochain, là, il faut que tu fasses les playoffs.
Ben, il faut que ça fasse mal perdre. Si t'as pas d'ambition, ça fait pas mal perdre.
Je pense qu'ils savent tous.
Je pense que ça fait mal de perdre. Mais c'est pas grave si tu perds. Ouais. C'est différent.
T'as raison. C'est une nuance intéressante. Mais regardons les coachs qui ont du succès dans la Ligue. Je vais aller à la pause, là, mais juste mettre la table sur la discussion sur laquelle on peut enchaîner au retour. Rick Tocchet, c'est pas la pensée moderne du hockey, là. Mm-hmm. Les Canucks de Vancouver reviennent au sommet. Personne ne les a vus revenir. Craig Berube est arrivé à Saint-Louis. C'est pas...
Exactement, ouais.
Tu sais, je pense pas qu'il est en nomination pour le Nobel de la paix, là. Tu sais, puis il remarque que ça n'a rien à voir avec le hockey, mais il a amené son équipe, puis on dit que ça va être un des entraîneurs les plus sollicités, recherchés sur le marché l'été prochain. Mm-hmm. T'as un John Cooper qui, lui, tu sais, il y a pas juste un style qui marche, mais... C'est pas, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà, c'est quoi le style de coach idéal? On est avec Kim Saint-Pierre, Stéphane White, Pierre Gervais. Na.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Na.
Nous voilà de retour à Ça sent la coupe. Victoire du Crunch de Syracuse, 3-1 sur le Rocket de Laval. Nous aurons plus de détails tout à l'heure. Et c'est confirmé, les défaites de Philadelphie contre Buffalo, de Washington contre la Caroline et de Détroit contre les Rangers. Donc, avec le même nombre de matchs disputés, eh bien, même si ça regardait pas pour ça, là, il y a quelques jours à peine, ben, les Islanders actuellement sont dans le portrait des séries éliminatoires. Notre invité spécial à Ça sent la coupe est Kim Saint-Pierre. On parlait d'un événement, l'événement marquant de ta carrière, puis il y en a eu plusieurs, 2002. Quelqu'un qui a joué un rôle intéressant là-dedans est avec nous, là-dedans, je dis ça comme si c'était rien, mais vous comprenez ce que je veux dire, pour raccourcir, est avec nous ce soir en direct au téléphone. Il s'agit de Daniel Sauvageau. Bonsoir, Daniel!
Bonsoir, monsieur. Salut, Kim.
Salut, Daniel.
Salut, Daniel.
Daniel, Kim nous a dit, puis pas qu'on est tombé en bas de notre chaise, c'est sûr que c'était une des réponses plausibles que 2002, la conquête de la médaille d'or, c'était un moment, le moment de sa carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la contribution de Kim à cette conquête de l'or en 2002, puis sur Kim en général, que tu connais très bien, beaucoup mieux que nous tous ensemble?
Combien de temps qu'on a?
Juste les bonnes choses, Dan.
Ah, OK. Alors, les bonnes choses. Alors, je pars, j'arrête. Non, c'est pas vrai. Écoute, si Kim vous a dit que 2002, c'était extraordinaire, j'ai écouté un petit bout. D'ailleurs, Kim, c'est 8 punitions d'affilée, 26 minutes totales, juste pour te rappeler, mais tu étais tellement présente. Sa capacité, justement, de rester dans le moment présent, c'était extraordinaire parce que c'est vrai, quand tu as une punition, tu sais pas que tu vas en avoir 7 autres d'affilée. Et une fois que tu l'as eu, ben il faut que tu l'oublies. Et je pense que la capacité de Kim de demeurer dans le moment présent a fait que elle a justement été capable de demeurer dans le match jusqu'à la toute fin. Et je vais toujours me rappeler, moi, lorsque justement on s'est donné la collade, c'était un beau moment parce que Kim, c'était la gardienne qui nous avait aussi permis de gagner 2000-2001, le championnat du monde. Ça, je pense qu'elle vous en a pas beaucoup parlé. Je sais qu'elle vous a parlé de ses parents. Ils étaient extraordinaires. Tu sais, le genre de parents là qui viennent dans les arénas puis ne cherchent pas à dire quoi faire, mais te soutiens. Et tu sais qu'ils sont là si jamais tu as besoin d'aide. C'est un peu une bonne... Tu sais, quand on dit que pour avoir du succès, il faut que tu sois une bonne coéquipière, je pense pas qu'elle vous a parlé, puis j'aimerais ça qu'elle vous le dise, mais lorsqu'elle a permis notamment là, à Charline Labonté d'avoir quelques minutes dans un match pour pouvoir dire justement d'avoir son nom et d'avoir cette fameuse médaille d'or dans un championnat du monde. Ça, j'aimerais ça peut-être qu'elle vous le raconte.
Ah, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus?
Oui, en fait, c'était pour les Jeux olympiques de 2010. Il y a toujours une centralisation. Donc, les filles, on se rejoint au mois de septembre. Tout le monde habite à Calgary en préparation des Jeux olympiques. Et puis, ça faisait partie des premières séances d'entraînement. On avait décidé d'aller jouer au basketball. Et puis, malheureusement, Charline s'était foulée la cheville, donc avant que tout le processus commence. Donc, on est trois gardiennes à se battre encore une fois. Donc, ça a été très, très difficile pour Charlie de devoir un peu faire de la réhabilitation pendant que nous, on s'entraînait pour les Jeux. Puis, plus l'année avance, bien, plus elle réalisait qu'elle avait pas de chance pour se battre pour le poste de numéro un. Donc, elle a réussi, par contre, à s'en remettre pour les Jeux. Et puis, elle était gardienne substitut pour un des matchs contre la Suède. Et après deux périodes, je pense que c'était peut-être 5-6-0. Avec Caroline Ouellette, elle était assise à côté de moi. Puis, on a comme pris la décision de dire, on va laisser la troisième période. T'sais, fait que c'est rare qu'un gardien va prendre la décision de se retirer. Mais, tu sais, je trouvais que Charline, elle avait travaillé fort. Puis, pour moi, les statistiques ont jamais été vraiment quelque chose d'important. C'est plus les souvenirs qui reviennent par la suite. Puis c'était toute une question de perspective dans ces moments-là. Donc, Charline a eu la chance de jouer une période aux Jeux olympiques de Vancouver dans notre propre pays. Donc, pour moi et Caro, on avait jasé de ça ensemble. Et puis, on a eu l'occasion de le donner la période à Charline.
Wow, c'est une belle histoire, une belle anecdote. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que nous autres, on connaît Danielle, tu sais, comme collaboratrice, comme experte de hockey, comme leader. J'étais à sa conférence qu'elle avait donné une fois pour Cogeco, puis c'est un jour qui a été marquant dans ma perception de Danielle, tu sais, que de la manière qu'elle nous avait raconté ça, c'est comme ça a vraiment déclenché quelque chose en moi. C'était dans le coin de Trois-Rivières. Danielle, tu t'en rappelles? Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur Danielle comme coach?
C'est juste les bonnes choses.
C'est-tu une Tortorella? C'est-tu une Torts ou c'est une Martin Saint-Louis? C'est quoi le style de Danielle? Parce que tu lui as rendu un hommage tout à l'heure par rapport à cette finale-là de Salt Lake City, mais j'étais curieux de savoir comment elle dirigeait ça ça, parce que Danielle m'a déjà confié elle-même qu'elle est capable, quand c'était le temps de chauffer la pièce, là, tu sais.
Oui, je pense que tu l'as bien dit. Ce qui est le fun avec Danielle, c'est qu'il n'y avait pas de second guessing, là, tu sais. On ne sait pas, oh, qu'est-ce qu'elle pense. Tu sais, si elle a quelque chose à te dire, elle te le dit. Puis elle est très directe. Puis moi, c'est ça que j'appréciais. Tu sais, j'arrivais du hockey masculin, donc, tu sais, j'étais capable d'en prendre. Et puis, tu sais, Danielle, c'est elle qui a changé ma vie, c'est elle qui m'a donné ma chance. Tu sais, souvent, ça prend une personne qui croit en toi, puis cette personne, pour moi, ça a été Danielle. Donc, tu sais, je vais toujours en être reconnaissante. Et puis, c'est de la façon, en tant qu'entraîneur, qu'elle gère ses athlètes aussi. Je me souviendrai toujours de mon premier match. On était en Finlande, je pense. C'est la première fois que je jouais contre les Américaines, donc j'avais un peu peur. C'était 3-0, je pense, après une période. Puis Danielle, elle m'a sorti. Tu sais, elle m'a dit, tu sais, crois-moi, aie confiance. C'est la meilleure des choses. Tu sais, c'était mon premier match. Moi, je pensais que c'était la fin de ma carrière, mon premier, mon dernier. Mais par la suite, elle a réussi à toujours bâtir ma confiance de la bonne façon. Puis quand elle m'a donné le filet en 2001 pour mon premier championnat du monde, la première finale que j'ai eu la chance de faire, tu sais, on l'a remporté 3-2. Après ça, ça m'a vraiment aidé en confiance après pour les Jeux de 2002. Donc, pour moi, j'ai toujours apprécié comment qu'elle a été directe, comment que, tu sais, les objectifs étaient clairs. Et puis, quand ça marchait pas, elle le disait aussi. Puis, elle m'a souvent mis les cartes sur la table, dire, il est temps que tu sais, autant les bonnes choses que les mauvaises choses. Puis, c'est ça qui est important en tant qu'athlète.
Elle était capable de secouer son équipe. Ouais, ouais. C'est le cas de dire, ouais.
D'avoir leur juste.
Elle faisait-tu des bons speeches?
Oui, très bons speeches. Tu sais, c'était pas facile, là, à l'arrivée après les Jeux de 98. C'était la pression de la médaille d'or. Les Américaines, c'était toute une équipe. Mais, tu sais, elle nous a toujours, ayez confiance. On va piquer au bon moment. Puis, tu sais, c'était un long processus. Tu sais, il y avait beaucoup de nouvelles joueuses aussi. Mais, non, Danielle,
ça a piqué au bon moment.
Oui, c'est ça. On a suivi sa mentalité, sa philosophie. Mais, ouais, son côté direct et fonceur, je pense que c'est ça encore aujourd'hui qui lui donne beaucoup de succès.
Il n'y a rien qui l'énerve. Danielle, aurais-tu retiré Kayden Primeau après 40 minutes hier?
Le contexte est quand même assez différent. Mais en même temps, ça dépend toujours comment ton équipe joue. Malheureusement, là, j'ai pas vu le match hier. Fait que pour moi, c'est difficile. Mais encore une fois, tu sais, c'est pas parce que tu retires quelqu'un que c'est la personne ou, tu sais, c'est souvent le gardien de but là, que tu vas blâmer. Mais on sait, des fois, c'est pour secouer ton équipe. Je l'ai vu dernièrement, d'ailleurs, dans un match là avec l'Université de Montréal contre Concordia. Ça allait vraiment pas bien. Et puis l'entraîneur a retiré la gardienne de but pour peut-être là 5-6 minutes et elle l'a remis par la suite et l'équipe est revenue justement dans le match. Alors je pense que c'est de faire des bons gestes au bon moment pour justement ne pas laisser les athlètes un peu à chercher ou à tenter de trouver des solutions eux-mêmes, parce que c'est l'essence même de l'encadrement, c'est l'essence même du coaching staff, c'est de dire maintenant comment qu'on peut, tu sais, je dis souvent que pire d'une mauvaise direction, c'est de s'en aller dans plusieurs directions. Alors, je pense que c'est le travail du coaching staff, de l'entraîneur-chef, de dire on s'en va à droite ou on s'en va à gauche. Je n'étais peut-être pas d'accord, mais en même temps, il faut se rallier à tout ça.
Es-tu à Utica en ce moment, Danielle? Je ne me suis pas renseigné.
Non, je suis à Montréal. Je fais le championnat du monde là, avec RDS.
Ah, RDS, OK, tu le fais en studio.
Cet après-midi. Je vais peut-être aller passer quelques jours la semaine prochaine. Là. On a quand même des joueuses à aller voir pour potentiellement là, se préparer pour le repêchage là, en juin prochain.
Ah, très bien. Ben, Danielle, merci de ta... Ben, trop bref, mais de ta très belle présence dans l'émission ce soir alors qu'on reçoit Kim. Et je te dis à très bientôt, ma chère, et une bonne fin de semaine.
Salut, bonne fin de soirée tout le monde.
Merci Danielle.
Salut, Danielle.
Martin a été honnête après le point de presse, après le match hier, par rapport à Primeau. Il dit, j'y ai pensé. Joe va-t-il retirer Primeau, toi, après 40 minutes?
Non.
Mais là, tu connais la fin du match. Ouais, mais y as pensé, toi aussi.
Oui, mais brièvement, non.
Ouais,
il me semble que non.
Toi, Steph? Ouais,
c'est évident.
Ah, mettons, là, tu connais la fin de l'histoire, mais...
Non, mais écoute, moi, je vais reconnaître, hier, j'étais dans la RDS. Après la deuxième période, on m'a demandé, mais... Mes partenaires à RDS m'ont demandé qu'est-ce que tu ferais. Puis j'y ai pensé, moi aussi. La même chose que Martin Saint-Louis, j'y ai pensé. J'ai dit, c'est quoi je ferais si je serais l'entraîneur de gardien de but? Puis après avoir pensé à ça, je l'aurais laissé là. Et puis pour la...
As-tu été surpris de l'explication de Martin après le match? Je sais pas si tu l'as entendu,
non,
le point de presse. Pour les gens qui l'ont pas entendu, c'est que lui, il dit, oui, j'y ai pensé, mais lui, Kim, je sais pas ce que t'en as pensé. As-tu vu le match hier?
Non, j'ai regardé les championnats du monde des filles.
Ah, ok, mais t'es fidèle à ton produit initial. Ouais. Mais il a dit que, dans le fond, il a pensé à Samuel Montembeau. Il dit, je peux pas l'envoyer dans le net
c'était
à froid.
Un bon point.
En désavantage numérique.
C'était un des points que j'avais dit à mes partenaires, mais le point, c'est que, c'est premièrement, c'est pas un match que tu dois gagner encore une fois. Ça changera rien, même si tu surviens dans le match. L'autre chose, c'est que tu penses à Caden. Caden, je le sentais pas en danger. Tu sais, quand tu sens ton gardien de but qui est shaké, qui te dit là, il a les épaules à terre, il est ses talons, il est creux, il est à terre, il commence à guesser les lancers. Là, tu dis, là, mon gardien de but est dans le trouble. Là, tu dis à ton entraîneur-chef, sors-les de là.
Il plongeait vite, un peu.
Mais j'ai pas senti ça.
OK.
Il y a un mauvais but sur les six qu'il a
donné. Lequel?
C'est le but là, avec son blocker là, qui a retourné dans le filet. Là. C'est le cinquième but.
Sur le but de Nick Paul, comment t'as trouvé?
Bon, c'est un bon lancer.
C'est
donné,
un bon lancer. Non, c'est
donné,
vrai.
Faut que tu donnes crédit au shooter.
Mais il est à genoux vite.
Ouais, mais. Ouais, mais. C'est pas. C'est,
ça avait été Sam Montembeau, là, le monde aurait dit il a donné trois mauvais buts. Je te le dis, là.
Non,
le monde est plus sévère avec Samuel.
Ah, ben non. Qu'avec...
Non, mais c'est tranquille,
est...
show là. Faut que je mette du gaz un peu.
Plus sévère avec Primo. Primo, avant un mauvais match, on savait que
Primo. Essaye pas.
Ben non, oui. Ça, pour venir à tantôt, c'est que je sentais pas qu'il y a une Primo, t'as shaké. Ça, c'est un. Puis l'autre chose, à son âge, ça y prend du millage, puis il faut qu'il apprenne à vivre de l'adversité. Et puis ça veut dire, reste dans le match, puis reviens, va me chercher une grosse troisième période. Puis ça, c'est important, puis ça a été bon pour la confiance de Caden Primo, parce qu'il y a eu une bonne troisième période, puis ça, c'est important. Donc, dans le contexte d'hier, c'était parfait de le laisser là.
Kim, donc, t'as pas vu le match, mais vas-y, Pierre.
Non, mais si t'as fait raison, puis c'est ça, le match, je voulais rien dire. La donne, je pense, est toute là.
Non, je pensais juste à la... Parce que Caden nous est apparu dans le passé fragile mentalement. Tu sais, on l'a déjà vu des images. Il y avait l'air complètement perdu.
Une raison de plus de le laisser là pour dire, écoute, là, il faut t'apprendre à faire face à l'adversité. Puis ça n'était de l'adversité. La solution facile, c'est que tu sors de là puis tu protèges ton petit gardien de but parce que tu veux pas qu'il se fasse trop mal. Non. Retourne dans le net, va chercher une grosse troisième période. Puis il l'a fait, puis il a montré du caractère. Puis ça, c'est bon pour le jeune.
Là, écoute, il était tellement convaincu qu'on a pas goût de justiner, là.
Next! Hein? Kim, il n'y a pas parle.
Non, moi, je suis d'accord. Quand les choses deviennent difficiles, c'est là que tu veux voir c'est quoi le caractère. Il faut que les goalers soient mis dans des situations comme ça. Si dès que ça commence à aller mal, on te sort, c'est pas comme ça que tu grandis. C'est pas comme ça que tu gagnes l'expérience. Là, il y avait un grand défi devant lui. Là, j'ai vu, je pense, c'est ça, les cinq dernières minutes. Mais, tu sais, c'est important de faire face à ces situations-là. Puis, tu sais, d'aller chercher la force intérieure, le mental aussi qui entre en ligne de compte, surtout un jeune gardien, c'est important qu'il soit mis dans des situations difficiles.
Moi, j'ai tout le temps demandé une affaire aux entraîneurs-chefs. Avant de changer un gardien de but, là, demande-moi mon opinion. OK? Ça, c'est la première des choses. Si tu veux le changer parce qu'il n'est pas bon, demande-moi mon opinion. Mais si tu veux le changer parce que l'équipe, tu veux shaker l'équipe, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une décision d'entraîneur-chef.
Moi, ça veut pas dire que tu vas toujours prendre la décision. Non. Ça tourne pas toujours du bord. Il n'y a pas une fois, Montoya, vous aviez un...
Ça, on pourrait en parler longtemps, mais ce que je vais en dire, c'est que...
Oui, déjà, c'était en Columbus, hein?
Oui, c'était en Columbus, le mot.
Le canon!
Mais
là... Les oreilles, monsieur Langor!
Ouais, moi, je me réveille la nuit encore. Mais ce que je vais en dire, c'est quand tu veux shaker l'équipe, puis tu sors ton gardien de but pour shaker l'équipe, je dis à mon entraîneur-chef, fais sûr d'une affaire, va voir le gardien de but puis explique-y pourquoi. Parce que je veux pas qu'il ait des doutes, tu sais, c'est-tu de ma faute, j'ai pas fait la job, il se sent comme pas très bien. Mais va lui dire pourquoi tu l'as sorti, c'est pour shaker l'équipe. Ça, c'est important que tu lui dises.
Jove, toi, t'étais là un certain soir quand même historique. Aurais-tu retiré Patrick?
Je sais pas quoi tu parles.
Aurais-tu retiré?
Des amateurs de sport.
C'est 23.